Alors bonjour Samantha.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de Transistor Midi. Tu es poétesse et depuis peu romancière. Tu fais partie du syndicat des poètes qui vont mourir un jour, collectif dont le nom nous a pas mal intrigués et dont nous parlerons. Tu as publié dernièrement Mon citronnier aux éditions J.C. Lattès et on en reparlera ça aussi un peu plus tard dans cette interview.
Déjà, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et d'où viennent tes voix poétiques ? Le français, l'espagnol, l'italien ?
Alors, j'aurais presque envie de vous lire un extrait de mon livre pour vous expliquer d'où je viens. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?
Oui, vas-y.
Parce que ça sera...
En direct, on a tous les droits.
Voilà.
Écoutons.
Non, mais c'est assez bien résumé, comme ça j'oublie rien. Je suis née en Espagne d'une mère argentine et d'un père italien qui est décédé. Non, je ne suis pas espagnole. Je suis née italienne et maintenant je suis également française suite au mariage de ma mère avec un grand type français. J'ai grandi au Mexique et... Non, je ne suis pas mexicaine. Et non, je n'ai pas le même patronyme que ma mère, ni celui du grand type. Je m'appelle comme mon père, celui qui est décédé, en Argentine. Non, il était italien. Et oui, je suis française. Comment ça, ça ne va pas être possible? Comment ça, il manque un document? Donc ça vous résume ma vie quand j'allais à la mairie pour demander un extrait d'acte de naissance, avec une pile très très haute de documents. Et c'est ce qui a nourri ma vie, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un minimum de 3 langues présentes, de 3 ou plusieurs nationalités, et j'ai essayé dans l'écriture de profiter de cette richesse qui a longtemps été un handicap, parce que bah, quand j'étais petite, on me disait « mais pourquoi tu parles espagnol avec ta mère? Pourquoi tu parles pas français? On est en France. » Ou alors on me disait « pourquoi tu retournes pas chez toi ?» Et puis venait la question « mais c'est où chez moi ?» Et du coup venait la question de l'identité. Et puis en Argentine, y a toujours le problème « les Argentins ne sont pas des Argentins, ce sont des exilés italiens, exilés espagnols, exilés polonais, exilés japonais. » Et puis un exilé argentin en France, c'est quoi? C'est un double exilé? Alors est-ce que ça annule l'exil? Donc il y a plein de questions d'identité qui du coup nourrissent après toute mon œuvre parce que...
On reparlera des thèmes.
Voilà, ouais. C'est bien d'utiliser la douleur ou le questionnement pour en faire des choses belles.
Alors justement, ces choses belles, comment est-ce que tu y es venue à ces choses belles, à cette poésie?
Alors, à la poésie, j'y suis venue grâce ou à cause de Alphonse Cervera, qui est un poète valencien de Valence en Espagne, et qui est venu un jour à Lyon quand j'étais libraire, il y a très longtemps, et il m'a offert son livre, un livre très très moche, qui était violet et orange, pas très joli. Et je l'ai posé sur ma table et puis au bout de 2 semaines, je me suis dit quand même, ça serait poli de le lire et puis de lui répondre un petit mot genre « j'aime beaucoup ce que vous faites ». Et je l'ai lu et j'ai passé 3 nuits d'insomnie à pleurer tellement c'était beau. Et j'ai répondu, par 64 poèmes en espagnol qui sont sortis comme ça, comme une espèce de transe et de réponses immédiates et obligatoires. Donc pour ceux qui sont là, je peux le montrer, c'est un livre vert qui s'appelle Les délits du corps, qui était une réponse au corps du délit, qui était le livre d'Alphonse Cervera. Et à partir de là, je me suis aperçue que moi je voulais faire du théâtre. Je voulais écrire du théâtre, mais quand on écrit du théâtre, il faut aller voir un metteur en scène. Le metteur en scène vous dit « ouais, c'est pas mal, je vais réfléchir ». Après, il dit « il faut que je trouve des financements ». Donc, il y a 2 ans qui passent, et puis après, il faut qu'il trouve des comédiens, et après un théâtre. Donc, ça met très, très longtemps. Et la poésie, en fait, il suffit de trouver quelqu'un qui vous prête un bout de scène, et puis vous pouvez lire, et le public, il reçoit ça immédiatement. Voilà, il n'y a pas besoin de décor, il n'y a pas vraiment besoin de lumière, on a besoin d'un peu de voix. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette immédiateté de l'échange et du partage avec les autres. Donc ça a été la deuxième étape. Je suis passée d'abord par la poésie écrite, ensuite par la poésie parlée.
Et je vois qu'il y a une troisième étape. Est-ce qu'on peut appeler ça une troisième étape? Le roman.
Oui.
Ton roman « Mon citronnier ». Est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivée à cette écriture du roman? Qu'est-ce que c'est pour toi l'écriture romanesque?
Alors, j'avais un, comme on dit en espagnol, un sueño guajiro, comme on traduit ça
Je botte en touche, hein, je suis absolument
pas calée en espagnol.
Un rêve un peu idéalisé, comme toute personne qui écrit, de me dire oh, un jour je ferai un roman, mais écrire un roman c'est beaucoup de temps, c'est une structure, c'est un squelette, c'est réussir à tenir un récit du début à la fin sans entrer dans des incohérences. Parce que bah, des fois, vous dites un truc au début, puis après, vous dites le contraire 100 pages plus loin, puis vous avez oublié ce que vous aviez dit au début. Et je trouvais ça très, très laborieux, très... Comment dire, il y avait vraiment des codes et des choses à faire, je ne m'en sentais pas capable. Donc ça faisait vraiment partie de l'utopie ou d'un truc que je ferais quand je serais vieille. Et il s'avère que bah, Jean-Claude Lattès, il y a une éditrice de cette maison d'édition qui est venue me voir en me demandant, à partir du premier recueil de poèmes, bah, du second recueil de poèmes que j'avais fait, qui s'appelle Le Citronnier, que nos spectateurs ici présents peuvent voir, mais pas à la radio.
Et si, parce que c'est filmé.
Ah, c'est filmé. Ah, bon, bah, voilà, vous pouvez le voir. Qui était un petit recueil de 60 poèmes, mais quand même avec une narration du début à la fin. Donc c'est des poèmes indépendants, mais qui racontent quelque chose. Et chez Lattès, ils m'ont dit, bah, ça serait bien d'en faire un roman. Et donc, moi, j'avais du coup mon squelette. Mon squelette, c'était ces 60 pages. Et je me suis dit, bah, c'est facile, je vais juste en rajouter 60 de plus, ça fera un roman de 120 pages. Et en fait, non, c'était pas si facile que ça, parce qu'ils m'ont demandé de remplir des ellipses, de développer des personnages, de donner du corps aux personnages qui étaient dans ce livre. Donc, c'est l'histoire de mon père qui est décédé quand j'avais 2 ans en Argentine. Et donc, il y a des personnages. Donc, il y a le père, il y a la mère, il y a la grand-mère, il y a la tante. Et puis, il y a la narratrice qui est un jeu moi. Et dans le roman, ils m'ont dit, ben, dans un roman, on a envie de savoir ce que la narratrice, elle pense, ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent et pourquoi elle fait une enquête pour savoir de quoi est mort son père. Et moi, je n'avais pas envie de répondre à toutes ces questions qui me paraissaient de l'ordre de l'intime jusqu'au jour où l'éditrice m'a dit, mais vous savez, un roman, on peut faire de la fiction. Là, je dis, oh, c'est vrai, oui, j'avais oublié ce détail. Donc, on peut faire de la fiction. Et là, je me suis lâchée. Donc, il y a des passages qui sont inventés. Et...
Je trouve le processus d'écriture très intéressant, le fait de passer d'un recueil de poésie à un roman. C'est-à-dire vraiment de, comment dire, ce que nous, on pense être des catégories de littérature. Et est-ce que ces deux écritures, finalement, sont différentes pour toi ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est marqué... Non, c'est même pas marqué que c'est un roman dessus. Alors, des fois, ils mettent sur la couverture « roman ». Là, ils ne l'ont pas mis. Moi, je considère que ça reste de la poésie parce qu'il y a une écriture qui est poétique, avec une musicalité, avec un rythme, avec quelque chose de très rond. Et c'est vrai que bon, c'est un roman parce que c'est une histoire, il y a une narration, il y a des personnages, et puis voilà. Mais pour moi, ça reste un texte poétique. Et je trouve que c'est un peu compliqué de mettre toujours des étiquettes hyper précises sur les choses. Donc c'est une enquête poétique ou un roman poétique ou une poésie en prose un peu longue ou une épopée familiale poético-exilée.
D'accord. Alors... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier d'écrivaine ? Comment est-ce que tu travailles ? Comment est-ce qu'on travaille quand on est poète, poétesse, romancière ?
Alors, il y a des gens formidables qui se lèvent à 5 heures du matin, qui écrivent pendant 2 heures jusqu'à 7 heures. Ensuite, ils petit-déjeunent. Après, ils vont travailler. Et le soir, ils reviennent à la maison. Ils écrivent encore pendant 2 heures et ils font un livre par an. Voilà, ça, c'est un idéal incroyable. Je ne pourrais jamais me lever à 5 heures du matin. Donc
je dors
jusqu'à 7h40, je petit déjeune, je vais travailler, je rentre à la maison, je suis fatiguée, je me dis zut, j'aurais peut-être dû écrire. Et j'avance comme ça pendant pas mal de temps sans rien faire, puis un jour je me dis ah là là, mais quand même, je suis poète, il faut que je fasse quelque chose. Et là je me mets à écrire, donc j'écris pendant des jours, des week-ends, où je prends des vacances, ou voilà, j'écris le jour, la nuit, peu importe. Et je fais des recueils qui d'un coup surgissent de ma tête. Alors je les réfléchis beaucoup quand je suis dans les transports en commun, quand je suis au travail, quand je suis à la cantine, quand je marche dans la rue, tout ça, je réfléchis parce que j'ai une écriture très imagée, donc je range les images dans ma tête et j'essaye de faire quelque chose qui peut sortir le jour où je m'assois à ma table. Mais le premier livre, il a été écrit en trois nuits. Le deuxième, ça a été un exercice un peu différent. Je me suis obligée à faire un texte par semaine. Donc voilà, tous les vendredis après-midi, je travaillais pas le vendredi après-midi. Du coup, je m'asseyais, je me disais, bon, allez, maintenant j'écris mon texte. Le roman, il s'est fait vraiment en 3 mois, dans une espèce de précipitation. Voilà. Et puis celui-là qui s'appelle Machine arrière, qui est le dernier, j'ai dû le faire en une ou deux semaines, où je m'étais dit, bon là, il faut que je fasse une suite de souvenirs. Donc j'ai pris ma vie du début à la fin et j'ai essayé de me dire, qu'est-ce qu'on retient dans sa tête d'important quand on est un être humain, quels sont les souvenirs qui nous restent vraiment en mémoire. Et à partir de ces souvenirs, j'ai fait une liste et ensuite j'ai fait les textes. Mais c'est allé très vite. Mais voilà, là je suis dans une pause, j'attends que ça vienne de nouveau.
Très bien.
Et après donc, ce travail d'écriture, un texte naît. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du monde de l'édition, où ces textes sont quand même édités, partagés à un public? Comment on fait éditer de la poésie aujourd'hui?
Alors, le grand secret de comment on fait éditer de la poésie aujourd'hui. Alors, il faut, première chose, lire les autres. Ça, c'est déjà un bon début pour savoir chez qui on a envie d'être édité. Parce que les maisons d'édition, c'est comme des familles d'écriture. Donc, c'est intéressant de savoir avec qui on a envie d'être publié, auprès de qui dans le catalogue. La deuxième chose, c'est de commencer à être publié en revue. Les revues de poésie, c'est vraiment la première étape. Alors, les gens qui font un recueil, qui l'envoient tout de suite à un éditeur, en général, ça ne marche pas parce que l'éditeur ne sait pas d'où il sort. Il en reçoit 400 dans l'année. Il n'a pas le temps de tous les lire. Donc, il a envie de publier des gens dont il a déjà un peu entendu ou vu les textes. Et puis surtout des textes de personnes qui s'intéressent aussi à la poésie, parce qu'il y a vraiment ce côté, voilà, si tu veux que je t'aime, il faut que tu m'aimes aussi. Et donc oui, voilà, publié en, alors il y en a plein des revues, il y a des revues papier, il y a des revues sur internet, après il faut choisir, donc c'est pareil, c'est comme des histoires de famille, ou alors ça peut être des choix esthétiques aussi. Moi j'aime bien les revues jolies, c'est bête à dire, mais j'aime bien quand c'est bien présenté, quand il y a une jolie police, quand il n'y a pas de fautes typographiques ou des espaces manquants là où il devrait y en avoir. Et puis après, il ne faut pas hésiter à aller écouter de la poésie, donc rencontrer le monde de la poésie. Et à Lyon, on a de la chance parce qu'on est un gros pôle de poésie. Il y a des choses à écouter tous les soirs. Donc sur mon site internet, j'ai fait un calendrier qui regroupe tous les événements poétiques qui se font à Lyon et alentour. Et il y a vraiment beaucoup de choses, comme il peut y avoir à Paris ou à Marseille. Mais par exemple, si vous prenez Nice, et ben à Nice, il n'y a presque rien. Donc c'est vraiment selon les villes. Donc Lyon, on a vraiment de la chance et puis il y a une vraie belle production parce qu'elle est très variée. Autant par exemple à Marseille, ils sont spécialisés dans la poésie sonore et dans des formes plus expérimentales ou plus en travail avec, je sais pas moi, avec les ordinateurs, avec l'image, avec la performance. À Lyon, on a un éventail qui est très très large. Donc une fois que vous avez publié en revue, que vous êtes allé écouter des gens, bah vous commencez à rencontrer les gens qui sont aussi publiés en revue, vous buvez des canons, et puis petit à petit, bah vous apercevez que les gens qui sont là, ils sont peut-être aussi éditeurs, et à ce moment-là, vous avez peut-être une porte d'entrée pour envoyer votre manuscrit à un être humain que vous avez rencontré autour d'un verre.
D'accord. Alors merci pour tous ces conseils. Alors depuis le début de cet échange, on parle beaucoup de poésie, mais on n'en écoute pas beaucoup. Est-ce que tu serais d'accord pour nous lire un peu de ta poésie?
Ah, c'est maintenant, d'accord.
Tout de suite, là comme ça, au débeauté.
Tout de suite. Alors,
je laissant le temps d'ouvrir.
Oui, j'avais l'intention de finir par mon citronnier, mais du coup, je vais commencer par des extraits du... Oh, je vais vous en lire un en espagnol et en français. Tiens, ça fera plaisir à Aurore. Puis c'est mes poèmes de jeunesse, si je le trouve.
Oui.
Il y en a un qui est très sympa, il y a du tango. Vous ne pouvez pas nous mettre un tango pendant que je cherche
ça. Olé.
Malheureusement, la régie n'a pas ça en stock.
Dites deux, trois mots le temps que je boive un verre d'eau discrètement.
On peut faire ça. Donc, restez sur Transistor. Tout de suite, l'instant poétique présenté par Samantha Parenzo.
Tomaré un café en un sitio de otros tiempos y con el sabor de la soledad que me persigue... Escribiré los versos hundidos del vientre, pensando en aquel café que tomaremos juntos. Je marcherai dans les grises avenues d'un Paris radieux, à la recherche de cette librairie espagnole, à la recherche de ce livre épuisé que jamais je ne trouverai. Tomaré un mate en el café argentino del boulevard Saint-Germain, miraré hacia un lado, hacia atrás quizás, y estaré de nuevo en mi Buenos Aires perdido, en mi Buenos Aires herido. Je marcherai dans les rues, les places, les églises, le fleuve et puis le reste, détenant le regard, la chaussure dans les cases de ma vie tracées à la craie, au trottoir de couleur, et j'atteindrai le ciel. Tomaré una copa de vino tinto y con un viejo tango, deslizada entre las sombras de un diván oscuro, me olvidaré la hora, el lugar, el tiempo, me olvidaré de ti, que jamás estás. Je marcherai enfin jusqu'au lever du jour, écouterai se mélanger étoiles et oiseaux, mon cœur meurtri d'avoir trop marché, et boirai un café, le dernier du jour.
Merci.
Merci beaucoup. Je suis personnellement très sensible à cette lecture.
Je sais.
Comprenant,
je vous laisse peut-être.
S'il te plaît, Marie.
Bon, d'accord.
Non, reste là, s'il te plaît.
Je reste là.
Toi,
c'est bon.
Toi. Et justement, me vient une question sur ces langues que tu maîtrises, et notamment sur la traduction de tes propres poèmes. Là, c'était pas le cas, mais t'as publié des recueils comme Amapolas, des Coquelicots, ou Los Delitos del Cuerpo, les délits du corps. Et peux-tu nous parler de cette démarche de traduction de tes propres poèmes, de la facilité ou de la difficulté de se traduire? Et est-ce que tu as une langue que tu préfères?
Alors, je n'ai pas une langue que je préfère, j'ai une voix que je préfère, et vous l'avez peut-être entendu, je n'ai pas la même voix en espagnol et en français. Et j'adore ma voix en espagnol, je la trouve très sexy, et j'aimerais avoir la même voix en français, donc j'ai essayé plein de choses et je n'y arrive pas. En termes d'écriture, vivant en France, c'est vrai que c'est plus naturel pour moi d'écrire en français, oui. mais si je passe 2 jours en Espagne, je reviens avec un recueil de poèmes en espagnol, parce que le cerveau se met tout de suite en marche et se met dans le mode espagnol. Et bon, la même chose m'arrive avec l'italien, mais je vais moins souvent en Italie qu'en Espagne ou en Argentine. Et en termes de traduction, c'est juste l'horreur de se traduire soi-même, parce que c'est un exercice qui est compliqué. L'avantage, c'est qu'on peut se trahir soi-même sans s'en vouloir, mais parfois, on a des formules qui sont très belles et très rondes dans une langue, et puis dès qu'elles passent dans la traduction, elles perdent de cette rondeur. Il y a des mots qui deviennent âpres ou aigus et qui ne sont plus dans la sonorité qu'on avait cherchée. Donc on est vraiment obligé de... C'est plus un travail de réécriture qu'un travail de traduction. Et moi, c'est quelque chose qui me fatigue un peu, parce que j'ai l'impression d'écrire 2 fois la même chose. Et je rêve du jour où une personne va venir me dire « Viens, je vais traduire tous tes poèmes ». Alors, c'était déjà un peu arrivé. J'ai un ami professeur d'espagnol qui avait commencé à traduire Le Citronnier. Je m'étais dit « Chouette, ça va être merveilleux ». Et c'était très, très bien traduit, mais c'était traduit en espagnol d'Espagne. Et moi qui suis argentine, y avait des choses qui me choquaient parce que... ça a beau être la même langue, on a beau se comprendre, c'est pas les mots que j'aurais utilisés. Et du coup, j'ai retravaillé le texte pour le rendre plus argentin. Donc voilà, du coup, c'est plus une histoire de temps. C'est le temps que je passe à traduire, je ne le passe pas à écrire. Et c'est toujours un dilemme. Mais quand d'autres traduisent, je voudrais qu'ils traduisent comme moi je l'aurais traduit. Donc il faudrait un clone. Si quelqu'un sait comment faire des clones, je suis preneuse.
Alors, une dernière question, peut-être, pour refermer cet entretien. Avec cette question de la traduction, il y a aussi la question de l'accessibilité. À qui est-ce que tu adresses ta poésie?
À qui est-ce que j'adresse ma poésie? C'est une question piège, ça.
Non, il n'y a pas de piège.
Alors, déjà, j'ai une fille qui a 15 ans. Et donc, je trouvais ça pas mal. Parce que je me suis toujours dit, le jour où j'aurai un enfant, tous les jours, je lui écrirai comme ça. Quand elle sera plus vieille, elle aura un super souvenir de moi. Puis je ne l'ai jamais fait, parce que par flemme. Et donc, le Mon Citronnier, là, mon roman, à l'intérieur, il y a une lettre qui lui est clairement dédiée. Et puis, c'est quand même, c'est un peu mon histoire. L'histoire de son grand-père, qui était mon père, un peu l'histoire de sa grand-mère, mais que je n'ai pas trop dévoilée parce que ma mère est encore vivante et qu'on va respecter son intimité. Mais je trouve que, c'est... D'un point de vue personnel, ça pourrait être adressé à ma fille. Et sinon, c'est plutôt... quand on écrit aussi pour mettre des mots sur les mots que les gens qui n'ont pas les mots n'ont pas. Est-ce que c'est clair? Non, mais c'est...
c'est poétique. Non, c'est...
Voilà, c'est pour... Parfois, il y a des choses qui sont difficiles à nommer. Le métier d'écrivain permet de faire ça, c'est de nommer des choses indicibles pour ceux qui n'arrivent pas à le faire. Et moi, je trouve ça très émouvant quand des gens... par exemple, il y a des gens qui ont perdu leurs parents pendant la Shoah, qui sont venus me voir quand j'ai reçu le prix René Lénaud, en me disant « Merci, vous avez mis des mots sur l'absence de mon père, sur la douleur que je ressentais d'avoir perdu mon père. » Et cette personne avait perdu son père pendant la Shoah, alors que moi, j'ai perdu mon père dans un hôtel à cause d'un accident de radiateur. On n'était pas du tout dans le même niveau de tristesse et de perte. Et pourtant, mes mots les avaient consolés. Donc, je trouve ça assez magnifique.
D'accord. Eh bien, on peut refermer cet entretien.
Nous refermons cet entretien.
Refermons.
Merci Samantha d'avoir répondu à nos questions. Nous pouvons te retrouver en chair, en os et en voix à Vienne pour une lecture à la librairie Luciole. Ce sera le 22 avril, je crois.
Oui.
Mais aussi au Salon du Livre et de la Presse à Genève pour ton roman Mon Citronnier du 27 au 29 avril.
Voilà, donc ça c'était pour ton agenda prochainement. Alors tu disais que pour la poésie, on a besoin d'un petit bout de scène et de voix. Donc je pense que c'est à peu près ce qu'on avait aujourd'hui pour te recevoir. Donc merci beaucoup d'avoir fait entendre de la poésie vivante et bien vivante, très vivante à la radio. Ça nous paraissait très important aujourd'hui dans une émission comme Transistor Midi. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.